Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée au mouvement révolutionnaire avant 1914. Un siècle après Verdun, les mensonges de l'histoire officielle demeurent. Celui d'un État français pacifique et agressé, n'ayant pas cherché une guerre généralisée, et celui d'une France unanimement belliciste, partant en guerre, la fleur au fusil. L'État français était pourtant un des principaux responsables de l'engrenage qui allait conduire à une guerre meurtrière avec plus de 10 millions de morts et essentiellement des prolétaires. D'abord parce qu'il s'était, pour répondre aux impératifs de croissance du capitalisme national, il s'était lancé à la recherche dans une aventure coloniale parce que le capitalisme national donc avait besoin de débouchés, de matières premières, d'une main-d'œuvre quasi gratuite, et aventure coloniale qui avait attisé des tensions interimpérialistes avec l'Allemagne au sujet du Maroc en 1906 et en 1911. La France est également co-responsable de l'engrenage qui allait conduire à la Première Guerre mondiale parce qu'il souhaitait, au travers d'une guerre avec l'Allemagne, reprendre l'Alsace-Lorraine pour des raisons idéologico-politique, donc la fameuse revanche, et aussi économique, puisque c'est une région qui est extrêmement riche en termes de mines et d'industrie. Et parce qu'il avait noué un système d'alliance en conséquent, en préparation de cette guerre avec l'Allemagne. Donc avec l'Angleterre, qui voyait dans l'Allemagne son principal rival commercial, industriel et maritime. Il y a une course aux armements maritimes entre l'Angleterre et l'Allemagne dans les années qui vont précéder la Première Guerre mondiale. Et la France était également alliée avec la Russie tsariste, qui avait des ambitions territoriales dans les Balkans, et ce système d'alliance allait l'entraîner quasi mécaniquement dans une guerre qu'il avait de toute façon voulu et préparée. Et enfin, au cours des dernières années, des derniers mois comme des derniers jours qui vont précéder l'entrée en guerre, l'État français va multiplier les signes belliqueux. La loi des 3 ans de service militaire, dont on va reparler avec notre invité, le renforcement de l'alliance avec la Russie, le fait qu'elle n'a jamais tenté de dissuader la Russie et l'a même plutôt poussé à la guerre, Nicolas II, le tsar russe, à décréter la mobilisation générale, qui va faire qu'en réponse, l'Allemagne va décréter la mobilisation générale avec l'Europe dans une guerre mondiale. Et enfin, l'État français, durant les années qui vont précéder la guerre, et même depuis 1871, aura matraqué la revanche, la ligne bleue des Vosges, etc., aux Français. Elle va réprimer jusqu'au dernier jour les mouvements anti-guerre. Elle va menacer les révolutionnaires de les incarcérer, de les mettre dans des camps de concentration au titre du carnet B. Et elle ne va faire aucune tentative d'empêcher l'engrenage au cours des derniers jours, notamment en enfumant le Parti Socialiste, comme on va le rappeler dans cette émission. Donc, on peut dire que l'État français voulait cette guerre, même si évidemment il l'aurait souhaité rapide, complètement victorieuse. Hein, dans l'or et le sang, les buts de guerre économique de la Première Guerre mondiale, l'historien Georges-Henri Soutou nous parle un petit peu des buts de guerre un peu délirants de la France, l'annexion politique et économique d'une partie de l'Allemagne, jusqu'au Rhin, ou au moins la Sarre, etc. évidemment, il n'a pas eu la guerre qu'il souhaitait, puisqu'il l'a eu longue, destructrice et meurtrière. Mais qu'on se rassure, en dehors des pertes territoriales initiales, le capitalisme français s'est globalement plutôt bien porté avec la Première Guerre mondiale, surtout l'industrie de l'armement et ses profits considérables. Et on lira là-dessus les profiteurs de guerre 1914-1918 de François Bouloc. Et en faisant trimer notamment des millions de prolétaires dans des conditions difficiles et en envoyant mourir des millions d'autres, notamment à travers la politique de l'offensive permanente. D'autre part, la République, l'État français, n'a pas eu, malgré un matraquage nationaliste et belliciste incessant, malgré une répression violente des oppositions à son bellicisme, la déportation des déserteurs, les perquisitions et l'emprisonnement des opposants, la répression des manifestations, elle n'a pas eu, malgré le mythe historique officiel, une population unifiée derrière elle. Jusqu'au dernier jour, l'État français s'est heurté à un important mouvement de contestation, composé de milliers de prolétaires, de syndicalistes révolutionnaires et d'anarchistes communistes. Et c'est finalement ce mouvement de contestation qui seul peut être loué pour ses tentatives d'empêcher une guerre meurtrière, et pas certainement la République française. Et pourtant, ce courant est passé complètement à la trappe et sous silence aujourd'hui par l'historiographie officielle. Et donc pour discuter de ce mouvement de contestation, pas seulement de la guerre et du militarisme, mais en fait plus généralement du mouvement révolutionnaire et notamment de sa composante libertaire, anarchiste, communiste, dans l'avant-guerre, c'est-à-dire après la Commune de Paris, disons des années 1880 jusqu'à 1914, nous sommes avec Guillaume Davranches, militant libertaire, historien, auteur de « Trop jeune pour mourir », ouvrier et révolutionnaire face à la guerre, 1909-1914, paru aux éditions Libertalia et l'Insomniac en 2014, et il y a eu une réédition en 2016. Et ça va être sur cet ouvrage qu'on vous invite à lire, qui est passionnant, qu'on va s'appuyer aujourd'hui dans notre discussion. Donc bonjour Guillaume Davranches.
Bonjour.
Et donc tu as également, j'ai oublié de le mentionner, tu es également un des co-auteurs du Métron.
Des anarchistes.
Des anarchistes. Et à ce titre, tu vas pouvoir nous parler aussi d'une période qui précède la période que tu étudies directement dans le livre 1909-1914. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de comment est-ce qu'on arrive à la situation de l'avant-guerre immédiate, puisque c'est une période qui est extrêmement riche. Donc on est après la Commune de Paris, c'est la naissance du syndicalisme révolutionnaire, la formalisation, la formation d'un courant anarchiste communiste assez fort en France, etc. Donc est-ce que tu peux nous parler, tu en parles un petit peu dans le livre, mais est-ce que tu pourrais nous dresser un petit peu une espèce de fresque chronologique, historique, jusque 1909 d'abord pour commencer?
Ben en fait, si on veut résumer un petit peu l'histoire du mouvement anarchiste avant 1914, je vous invite à vous référer au Métron des anarchistes, hein, parce qu'il y a une très bonne chronologie commentée et périodisée qui débute le livre. En fait, il faut savoir qu'en 1914, l'anarchisme, c'est un mouvement, l'anarchisme français a à peu près 25 ans. Hein. En gros, il a à peu près 25 ans et on peut à peu près le découper en trois périodes. Il y a eu une première période entre 1880 et 1889 à peu près, qu'on a coutume de qualifier de période insurrectionnaliste. C'est la première période de l'anarchisme français. Alors il se détache du socialisme en 1881 environ par là. Je crois que c'est en mars 81 à Lyon, puis en mai 81 à Paris que les groupes anarchistes s'autonomisent du Parti socialiste qui existe à ce moment-là, qui unifie à ce moment-là toutes les composantes existantes. Hein. Donc les anarchistes s'en détachent parce qu'ils refusent l'expérience électorale. Hein, c'est le moment clé, hein, la question fondamentale du divorce au départ. Et puis, grosso modo, ils s'autonomisent aussi parce que ce sont des gens qui voient que dans le mouvement socialiste, dès cette époque-là, il y a des gens qui espèrent faire une carrière, en fait, hein, tout simplement, une carrière d'élus, hein, de parlementaires, voilà. Or, les anarchistes refusent ça totalement. Les anarchistes, dans une large mesure, on peut parler un peu d'un phénomène générationnel. rationnel hein, pour cette première période de l'anarchisme, c'est un petit peu les petits frères de la Commune de Paris. C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un comme Jean Grave, par exemple, qui a été pendant très longtemps l'animateur d'un des principaux journaux anarchistes en France, à l'époque c'était le Révolté, et bien Jean Grave, c'est quelqu'un qui, au moment de la Commune de Paris, a 12 ou 14 ans. Il n'a pas fait la Commune lui-même, mais il en a été le témoin passionné. Et des gens de cette génération-là sont des gens qui vont, dans les années 1880, donc après le retour de l'exil, après l'amnistie des communards, ce sont des gens qui vont rêver que d'une chose, c'est de refaire, de refaire parler la poudre, de refaire des barricades, et de prolonger ce qu'avait été la Commune de Paris. Alors le problème, c'est que au début des années 1880, quand les exilés rentrent en France et que le mouvement ouvrier commence à se reformer, que les groupes révolutionnaires se reforment, eh bien c'est parallèlement également une période en fait de normalisation politique et de pacification en quelque sorte en France. Donc on est dans un cas typique de révolutionnaires sans révolution et qui vont se lancer. Alors ça va rester relativement confidentiel, enfin pas confidentiel, mais ça va pas avoir une très grande ampleur au départ. Mais ils vont se lancer dans une politique insurrectionnaliste qui va passer par un certain nombre d'attentats. Voilà. Donc il va y avoir des attentats dès les années 80. Contre ceci, cela, hein, des commissariats, des représentations, des pouvoirs publics. Voilà, il y a l'affaire de la bande noire à Montceau-les-Mines. Il y a, on est dans cet anarchisme du début, un peu rude, quoi. Voilà, qui sera pas tellement suivi des années suivantes. Cet anarchisme un peu rude. En même temps, il n'est pas que insurrectionnaliste. Il y a également des anarchistes qui sont, dès cette époque-là, dès les années 1884 notamment, 85, très investis en fait dans les syndicats. Alors, il y a un certain nombre de syndicats, un syndicat par exemple qui attire beaucoup d'anarchistes, qui est en fait un syndicat anarchiste hein, quasiment, c'est le syndicat des hommes de peine, dans lequel on retrouve beaucoup d'anarchistes, et puis il y en a un qui est très important à Paris, c'est la chambre syndicale de la menuiserie parisienne, où on rencontre des gens très importants comme Joseph Tortelier, notamment Tortelier, le grand orateur anarchiste de l'époque, et puis un certain nombre d'autres qui sont beaucoup moins connus, mais enfin, c'est pareil, hein, le syndicat des menuisiers parisiens, c'est vraiment un syndicat anarchiste. Et ces gens-là font pas mal d'activités et pas mal d'agitation sociale, et donc c'est pas, là pour le coup, c'est pas du dynamitage ou de la pose de bombes, c'est vraiment de l'agitation sociale, et notamment ils sont très actifs dans l'agitation de l'hiver 84-85 avec les sans-travail, voilà, ce qu'on dirait les chômeurs aujourd'hui, voilà, bon, tente de faire des choses, mais ça n'aboutit pas pour autant à des mouvements de foule révolutionnaires comme ils auraient pu l'espérer. À partir de 88-89, on bascule dans une deuxième période qu'on peut qualifier de période grève généraliste. C'est-à-dire que l'insurrectionnalisme, globalement, s'est un peu enlisé. On a tenté de faire des choses hein, avec des mouvements de foule, de l'agitation avec les chômeurs, poser quelques bombes par-ci par-là, mais ça n'a pas déclenché l'insurrection. Voilà. Et donc, ce modèle révolutionnaire-là apparaît de plus en plus comme périmé, ce que voilà, et c'est peut-être qu'à cette époque-là, on commence déjà à dire que peut-être la Commune de Paris c'était la dernière occasion de mener une révolution sur un modèle barricadier, et que avec les perfectionnements de l'armement moderne, de l'armée, etc., on ne peut plus envisager une révolution de la façon dont on l'envisageait jadis. Et c'est à ce moment-là que les anarchistes basculent dans. Il y a un débat, hein, bien sûr, ça se fait pas d'un seul coup. Hein, c'est le mouvement anarchiste, c'est un mouvement où il y a des débats, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, mais grosso modo, en quelques années, la majorité du mouvement anarchiste va se tourner vers une nouvelle méthodologie révolutionnaire, qui est la grève générale, le grève généralisme. Question fondamentale, qui va en réalité être la pierre de touche de tous les débats dans le mouvement ouvrier français pendant de la fin des années 1880 au début des années 1900, donc pendant une douzaine d'années à peu près, le grève généralisme, la grève générale, ça va être la question fondamentale. Faudra être pour, faudra être contre, mais faudra avoir une opinion sur la question. Pourquoi ? Parce que c'est la question qui permet de tracer la frontière entre ceux qui souhaitent changer la société par la voie indirecte, c'est-à-dire par le biais des élus et des parlementaires socialistes, ou bien ceux qui veulent changer la société par l'action directe des travailleurs, sur le principe « l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Et ça, c'est la grève générale. C'est une idée qui, au départ, est introduite en France, on a coutume de dire, hein, c'est la tradition qui nous dit cela, mais que l'idée a été introduite en France par Joseph Tortelier, donc un des principaux orateurs anarchistes de l'époque, qui était un des animateurs du syndicat des menuisiers. Il a fait carrément des tournées de propagande en France, hein, autour de cette idée, pour essayer de l'ancrer vraiment dans les syndicats, dans la classe ouvrière, et puis des journaux anarchistes très influents s'en sont emparés. Le Père Pénard, par exemple, qui est un hebdomadaire fondé par Émile Pouget en 1889, qui a eu une influence très grande, très importante dans un certain nombre de centres ouvriers, le Père Pénard va adopter le principe de la grève générale. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que Émile Pouget était opposé au pétard, hein, comme on dit, c'est-à-dire à la pose de bombe. Mais néanmoins, la question stratégique, la stratégie révolutionnaire, c'était bien la grève générale qui s'imposait. Et donc, à partir de 1888-89, vous avez l'entrée dans cette nouvelle période du mouvement anarchiste qui est le grève généralisme, la grève générale, et où de plus en plus de militants font la promotion. Louise Michel en fait la promotion à un moment donné pendant la grève des terrassiers en 1888. Puis vous avez des gens qui refusent, hein, cette option de la grève générale, qui estime que c'est le début de la fin de l'anarchisme, en gros, c'est parce qu'on renonce à la révolution tout de suite maintenant, on renonce aux émeutes, on renonce à poser des bombes, et donc pour eux c'est une trahison de la ligne, et ils vont rester sur une ligne insurrectionnaliste, et ce sont ces gens-là qui vont former les premiers contingents de ce qu'on appellera par la suite les individualistes, en fait. Hein. Ça, c'est donc cette branche-là qui se détache en 1890-91 de gens qui se disent individualistes parce qu'ils considèrent que les anarchistes fiels sont en train de trahir l'anarchisme. Et donc, en se disant individualistes, ça revient à dire qu'on va vous supplanter comme nouvelle école révolutionnaire. Quoi. Voilà. Bon, en fait, ils vont échouer. Mais c'est de là que ça vient, en fait, l'individualisme en France. Ça vient de ce moment-là. Bon, cette branche-là va vivoter, hein, cas un cas, mais la majorité du mouvement anarchiste va être sur une ligne de grève généraliste. Ensuite, vous avez une parenthèse, 1892-94, c'est pas vraiment une période entière, on va plutôt parler de parenthèse, c'est la parenthèse terroriste, hein, et là, c'est le moment important des attentats. Vaillant, Ravachol, enfin Ravachol en premier, Vaillant, Caserio, Émile Henry, et puis d'autres. Et ça, on peut le voir un peu comme le chant du cygne de la période insurrectionnaliste, c'est-à-dire des anarchistes qui pensaient que c'était la façon de faire, et qui se lancent un peu dans une forme de vendetta, en fait, puisque on fait un attentat, les compagnons sont guillotinés, et puis enfin faut venger les compagnons, donc nouvel attentat, de nouveau quelqu'un qui se fait guillotiner, etc. Et on s'engage dans une vendetta qui va en fait conduire à l'État français à se lancer à un moment donné dans une grande répression, une énorme vague de répression de l'anarchisme, avec des lois antiterroristes spéciales qui vont être votées exprès pour ça, avec un démantèlement de l'ensemble du mouvement anarchiste, et vous avez courant de 1894, le mouvement anarchiste il est détruit en France, il est complètement rasé, tous les journaux sont fermés, tous les militants sont en fuite, et vous avez des dizaines de personnes qui se réfugient à Londres. Vous avez un quartier entier à Londres qu'on appelle la Petite France, il n'y a que des anarchistes qui sont tous réfugiés là. Malato raconte ça d'ailleurs dans un de ses bouquins, les joyeusetés de l'exil. Bon, c'est assez truculent. Et
donc c'est le moment où sont les fameuses trois lois scélérates.
Les trois lois scélérates sont votées à ce moment-là, en décembre 1893 et jusqu'en janvier ou février 94. Trois lois antiterroristes qu'on surnommera les lois scélérates. Ce sont des, comme toute loi antiterroriste, ce sont des lois qui visent un peu à amenuiser les droits de la défense, hein, en fait, de différentes façons, et à réprimer et à élargir les critères d'inculpation de façon tellement large qu'on peut inculper à peu près n'importe qui pour menées anarchistes, dès lors qu'il a eu quelques contacts à un moment donné avec le mouvement. Voilà. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure, si vous voulez, de la façon dont ces lois ont fonctionné, mais grosso modo, c'était des lois vraiment antiterroristes qui ont gravement porté atteinte aux droits de l'homme, hein, et aux droits des justiciables, et qui se traduisaient par exemple le fait que les condamnés souvent étaient relégués, hein, c'est-à-dire qu'on subissait d'abord une condamnation à la prison, puis il y avait une double peine, hein, puis on était relégué en Guyane, donc au fameux bagne, voilà, en Guyane.
D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai appris que ces lois avaient été restées en place jusqu'au 1992.
94 même, je crois.
Ah oui,
94, oui, oui, oui. Bon, alors après, elles sont vraiment tombées en désuétude après la guerre de 14, mais on en parlera tout à l'heure. Elles ont été, en fait, elles étaient un peu tombées en désuétude déjà à la fin des années 1890, début des années 1900. Mais en fait, à partir de 1911, c'est-à-dire à partir de l'entrée réelle dans l'avant-guerre, l'État français va les réactiver pour les appliquer systématiquement pour frapper la CGT et le mouvement syndical. Voilà. Donc en tout cas, il y a cette parenthèse terroriste là, 1892-94, mais parenthèse relativement vite refermée, parce que en fait, c'est quasiment dans l'exil londonien qu'un certain nombre d'anarchistes autour d'Émile Pouget, autour de Agresti, de Malato, de gens comme ça, vont se dire que bon, il faut tourner la page réellement des attentats, de l'insurrectionnalisme, parce que ça ne mène à rien, et où Émile Pouget va commettre un article célèbre, enfin considéré comme un classique, qui est donc à Roublard et demi, voilà, article moult fois reproduit, et où Émile Pouget invite les anarchistes à rentrer dans les syndicats pour y faire de la besogne révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y a un saut qualitatif. Auparavant, il y avait des anarchistes dans les syndicats, mais pour eux, c'était pas spécialement stratégique d'un point de vue révolutionnaire. Avec Pouget, et puis avec Pelloutier, parce que Fernand Pelloutier commence à agir à la même époque en France, hein, à la tête de la Fédération des Bourses du Travail, et bien, de façon concomitante, les anarchistes commencent à penser que l'investissement syndical peut avoir un rôle stratégique du point de vue de la révolution, et que donc c'est extrêmement important de ne pas laisser les syndicats entre les mains des réformistes. Et ça va mettre quelques années, en fait, hein. Ça va pas se faire tout de suite, juste dans la foulée de l'article célèbre d'Émile Pouget. Ça, c'est juste une référence qu'on peut avoir comme date, quoi. Voilà, en 1894. En réalité, les anarchistes vont commencer à s'impliquer de plus en plus dans les syndicats, et puis ça va aller de plus en plus vite, quoi. La première, par exemple, moi j'ai relevé que le premier congrès CGT où on peut relever une intervention anarchiste concertée dans les débats, c'est le congrès de Toulouse de 1897. Et là, de façon évidente, hein, la moitié de la commission de travail sur la question du sabotage et du boycottage est composée par des anarchistes, dont Émile Pouget et Paul Delsalle. C'est Pouget qui rédige le rapport. Il en a fait auparavant beaucoup la promotion, la campagne idéologique dans son journal Le Père Peinard. Et puis, le congrès vote le sabotage et le boycottage. C'est la première victoire anarchiste, en quelque sorte, dans un congrès CGT. Et dans les années suivantes, c'est spectaculaire, en quelques années, on les retrouve à tous les échelons de l'organisation syndicale. Secrétaire de syndicat, secrétaire de bourse du travail, secrétaire de fédération, jusqu'au niveau confédéral. Voilà. Et en mars 1901, Pouget devient secrétaire adjoint de la CGT et par ailleurs en charge de la rédaction de son organe officiel, La Voix du Peuple. Voilà.
Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans...
Enfin, de passer... et là, je termine, mais vas-y. Là, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, de ces années 1894-97, on bascule dans une nouvelle période qu'on qualifie de période syndicaliste, parce que le mouvement anarchiste, à partir de ce moment-là, va, dans sa grande majorité, hein, va lier son destin véritablement au syndicalisme et au syndicalisme révolutionnaire. Et jusqu'en 1913-14, il va y avoir une... Je dirais pas une osmose, hein, le mot est trop fort, mais il va y avoir véritablement un partenariat, un compagnonnage très étroit entre le syndicalisme révolutionnaire et l'anarchisme.
Et donc, avant de basculer sur cette période, j'aurais voulu te poser une question, enfin deux questions plutôt. D'abord, plus spécifiquement sur les anarchistes, qu'en est-il du débat en France à partir des années 1880 entre les collectivistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que dans une société post-capitaliste ce sera à chacun selon son travail, en fonction d'une mesure du temps de travail, etc. D'un autre côté, de ce qu'on appelle, enfin ce qu'on peut appeler le communisme libertaire, c'est-à-dire l'idée que ce ne sera pas à chacun selon son travail, mais à chacun selon ses besoins, qu'il n'y aura pas de mesure du temps de travail, de la productivité, etc., puisque ce serait, selon Kropotkin et d'autres promoteurs, remettre en place une bureaucratie qui comptera le temps, etc. Effectivement, qui a été une mesure de comptabilisation du temps qui a été effectivement celle qui a été mise en place en URSS. Et du coup, et qu'en est-il de ce débat? Est-ce que les individualistes sont plus collectivistes? Voilà, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu là-dessus?
Alors, l'origine du débat, enfin, ça remonte à la Première Internationale. Il faut préciser que dans la Première Internationale, les amis de Bakounine, par exemple, mais également les amis de Karl Marx, pour le coup, ils étaient d'accord sur ce plan-là. Ils étaient collectivistes. Alors, la différence entre le collectivisme et le communisme, c'est quoi? La différence, attention, c'est une différence qui se définit à un moment. C'est de la sémantique, hein, mais d'un point de vue sémantique, c'est à ce moment-là qu'on peut faire cette différence-là. À d'autres époques, le mot communisme aura d'autres significations. Hein, donc voilà.
Bien sûr.
Bon, en tout cas, à cette époque-là, au moment où il y a ces débats-là dans la Première Internationale, c'est-à-dire vers la fin des années 1870, les amis de Bakounine sont collectivistes. Collectivisme, ça veut dire le principe du collectivisme, c'est à chacun selon ses œuvres. C'est-à-dire que la terre aux paysans, l'atelier aux ouvriers, et qu'à chacun il revienne ce pour quoi il a produit. Bon. Et alors que le principe du communisme, qui sera débattu ensuite, c'est de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le principe communiste, on refuse de quantifier. On refuse de compter les heures de travail. On demande simplement que... Parce qu'on considère que c'est... qu'on ne peut pas les compter. Hein. C'est les Italiens, c'est la section italienne de la Première Internationale, qui était très anarchiste, qui a la première porté le débat en disant, mais écoutez, si on commence à vouloir quantifier le temps de travail pour savoir ce qui revient à chacun dans le principe collectiviste, on ne va pas en sortir parce qu'on va devoir créer une espèce de bureaucratie de comptabilité gigantesque et ça va être l'embryon d'un nouvel État. En fait. Et donc, eux, ils disaient, alors ça fonctionnait aussi sur un petit peu le mythe abondanciste hein, de l'époque, qu'en gros, de toute façon, on produisait trois fois plus qu'il n'était besoin. Donc, après tout, pourquoi quantifier, puisqu'on produit trois fois plus que ce qu'il n'est besoin. Et donc, les anarchistes italiens disaient, on refuse de compter ce que les gens ont fait ou pas fait, chacun doit pouvoir recevoir ce dont il a besoin pour vivre. Voilà. C'était ce principe-là. Et c'est ce principe-là qui a triomphé en 1880 au congrès de la Chaux-de-Fonds de la Fédération jurassienne. Et c'est de ce moment-là que le mouvement anarchiste est devenu communiste.
Et d'ailleurs, le mouvement anarchiste, du coup.
Alors, tout le mouvement anarchiste presque, les Italiens, les Français,
sauf les Espagnols.
Et
c'est
voilà.
Ça.
Et en fait, les seuls qui sont restés collectivistes pendant très longtemps, c'est les Espagnols, et ils n'adopteront le communisme libertaire qu'en 1919, je crois. Voilà.
Oui, c'est ça.
C'est eux qui, eux vont rester collectivistes. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut bien avoir conscience que jusqu'en 1917, communiste en France, c'est synonyme d'anarchiste. Hein dans les débats dans les années 1900-1910, quand il y a des débats entre socialistes et anarchistes, c'est des débats entre collectivistes et communistes. Hein les socialistes, le parti socialiste est collectiviste. Les anarchistes sont communistes. Ben voilà, c'est vraiment très très clair. Et d'ailleurs, la première organisation anarchiste française va naître sous le nom de Fédération révolutionnaire communiste. Parce que c'est quasiment synonyme, mais c'est pas tout à fait pareil, hein, mais dans l'esprit des gens qui s'y connaissent un tout petit peu, c'est la même chose.
Alors, du coup, la deuxième question, elle est lié, même si on va l'aborder assez rapidement, au contexte général. Tu as parlé de normalisation dans les années 1880-1889. Effectivement, c'est les années d'affermissement de la République, qui amnistie les communards, qui essaye de noyer un petit peu cette histoire avec une mémoire plutôt consensuelle. Voilà, c'était une mauvaise guerre civile, il faut oublier et tout ça. Donc c'est aussi ça va être donc d'abord affermissement de la République au début des années 1880, donc qui va d'une certaine manière permettre aussi au mouvement anarchiste de se reformer un petit peu en bénéficiant d'une espèce de période un petit peu de pacification, d'ouverture, etc. Après, il va y avoir la crise boulangiste. Et puis ensuite, ça va être le contexte des scandales, de l'affaire Dreyfus, etc. Est-ce que tu pourrais parler peut-être très, très rapidement, évidemment, comment est-ce que l'anarchisme a réagi un petit peu à ces différentes périodes, disons, politiques, voilà.
Alors ça, on peut en parler par un biais qui est intéressant, parce que ça continue à nous parler aujourd'hui. C'est la question de la défense de la République et du front républicain, hein. Par exemple, le boulangisme, l'affaire Boulanger. Dans l'affaire Boulanger, le mouvement socialiste a été très divisé. Boulanger, c'est donc un général qui, à un moment donné, était porté par, était adulé par les foules, qui était soutenu aussi bien par l'extrême droite que par une partie de l'extrême gauche, et qui était vu un peu comme le sauveur qui allait balayer une république corrompue. Et ensuite, il y aurait quoi ? On ne savait pas trop, mais bon, ça allait sans doute être le moyen de faire le grand chambardement. Le mouvement socialiste a été très divisé sur la question de Boulanger. Il y a des socialistes qui l'ont soutenu du bout des doigts, enfin du bout des lèvres, sans trop le dire, mais ça les arrangeait. Par exemple, typiquement les marxistes, guédistes, considéraient que Boulanger pouvait être un instrument, un levier en quelque sorte, qui par une ruse de l'histoire permettrait de faire avancer la question révolutionnaire. Donc les guédistes ne s'opposaient pas du tout à Boulanger. Vous avez d'autres socialistes, par exemple les partisans de Paul Brousse et de Jean Alleman. Eux par contre étaient archi anti-Boulanger. Ils étaient anti-boulangistes possible, et donc ils ont versé dans le front républicain, en défense de la République, contre Boulanger. Boulanger étant présenté comme un futur Bonaparte, on craignait le coup d'état césarien, comme on disait à l'époque. On parlait pas de fascisme, bien sûr, à l'époque, mais on parlait d'un coup d'état césarien qui était en gestation. Et puis, vous avez des socialistes qui ont soutenu Boulanger. Donc, et parmi eux, notamment une très grande partie des blanquistes. Donc, les héritiers d'Auguste Blanqui, alors eux, bon, qui avaient de toute façon ce côté un peu, ils avaient ce côté un peu militariste et patriote, de toute façon, les blanquistes, donc peut-être pour ça aussi la figure de Boulanger les rebutait moins, mais les blanquistes ont totalement sombré dans le boulangisme. Il n'y a qu'une minorité des blanquistes qui ne l'a pas fait, et qui s'est battu contre le général Boulanger, ou qui au moins s'était forcé de tenir une position neutre, c'est-à-dire ni Boulanger ni République, nous sommes révolutionnaires. Bon, ça c'est la position qu'ont également tenue les anarchistes. Les anarchistes à ce moment-là ont su se tenir à égale distance du boulangisme et du front républicain, en disant on ne va pas défendre cette république pourrie, mais il est évident qu'on ne va pas soutenir un général qui éventuellement sera un futur dictateur. Voilà. Ça c'est l'attitude du mouvement anarchiste par rapport au boulangisme, mais c'est un moment important vraiment de recomposition dans le mouvement syndicaliste dans le mouvement socialiste et révolutionnaire de l'époque. Eh ben, cette situation va pas se reproduire exactement dans les mêmes termes au moment de l'affaire Dreyfus, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, c'est l'affaire Dreyfus, et là, au contraire, la majorité du mouvement anarchiste va être entraînée par Sébastien Faure, notamment, dans le front républicain. C'est-à-dire que au début de l'affaire Dreyfus, c'est une affaire judiciaire qui concerne un officier de l'armée française qui est démis de ses fonctions, renvoyé de l'armée française parce qu'il est accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. En réalité, il est surtout renvoyé parce qu'il est juif et que on lui fait porter le chapeau, alors que c'est pas du tout lui qui était un espion. l'affaire commence à prendre de l'ampleur, de plus en plus d'ampleur, parce que c'est une erreur judiciaire manifeste, et une injustice criante, et ça vire au scandale d'État. Mais arrive à un moment, donc les anarchistes s'engagent dans le soutien à Dreyfus à partir de janvier 1898 environ, hein, ils commencent à se battre avec les antisémites dans les rues, etc. Mais il y a un véritable mouvement populaire qui montant avec à tendance pogromiste, hein, on peut le dire, dans les grandes villes de France, avec une remontée en force de l'antisémitisme, quelque chose voilà auquel on s'attendait pas forcément. Les anarchistes s'y opposent par la force, hein, à ce moment-là. Et puis progressivement, plus la situation va se durcir et plus on va aller vers une crise politique intense avec menace d'un coup d'État militaire appuyé par l'extrême droite, plus les anarchistes vont en fait virer un peu dans le fond républicain. Je me garderai bien de porter un jugement, hein, parce que nous, on n'a pas vécu ce genre d'épisode. On ne sait pas comment on réagirait si demain, il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue qui réclamaient un dictateur au pouvoir avec l'armée qui menace d'un coup d'État. Je sais pas ce qu'on dirait. Mais en tout cas, à cette époque-là, les anarchistes ont fait le choix de défendre la République. Émile Pouget, par exemple, et Sébastien Faure, alors, ils ont tous les deux abandonné leur hebdomadaire, le Père Pénard d'Émile Pouget, le Libertaire de Sébastien Faure, ont été abandonnés, et ils ont lancé un quotidien qui s'appelait le Journal du Peuple, qui était un quotidien dreyfusard d'extrême-gauche, en quelque sorte, voilà, c'est-à-dire qui défendait le dreyfusisme, enfin qui défendait Dreyfus, qui défendait également la classe ouvrière et la Révolution, hein, pour aller vite, et qui défendait aussi le statu quo, enfin qui défendait la République. Alors, Pouget l'écrit, hein, il dit « Si nous défendons la République aujourd'hui, ce n'est pas par amour du présent, c'est par haine du passé. Parce que nous ne souhaitons pas voir revenir la corruption monarchique ou bonapartiste. » Ou voilà. Et donc, Pouget, Faure et un certain nombre de militants comme ça ont défendu la République par défense de l'acquis. Voilà. Et puis, cette affaire Dreyfus va quand même créer des remous, hein, le monarchiste, cette posture, cette position de défense républicaine. Et quand l'affaire Dreyfus va se terminer un peu en queue de poisson, sans avoir mené à la révolution évidemment, mais avec aussi un certain nombre de compromissions qui vont avoir été très mal vécues par une partie du mouvement anarchiste, hein, notamment parce qu'ils se sont fait traiter d'anarchistes de gouvernement par la presse d'extrême droite, ils ont été accusés d'avoir servi de supplétif à la police, hein, et d'avoir servi de supplétif au gouvernement, un certain nombre d'anarchistes vont quand même mal le vivre. Et il va y avoir un peu une scission à ce moment-là, le mouvement anarchiste, un divorce, qui sera pas forcément résorbé, même encore en 1914, hein, 15 ans plus tard. Il va y avoir un peu un divorce. Sébastien Faure va être mis sur la touche, mis au banc du mouvement. Il n'en sortira pas avant quasiment 20 ans. Il sera vraiment mis sur la touche et il fera vraiment son retour dans le mouvement que pendant la guerre, en fait, en 1916-1917, quand il animera l'opposition pacifiste à la guerre. Mais Sébastien Faure va être contraint un peu de se retirer du mouvement anarchiste parce qu'il est harcelé de toutes parts. On l'accuse de compromission, d'avoir conduit le mouvement anarchiste à se compromettre avec la République. On l'accuse d'être franc-maçon. Et d'ailleurs, c'est la principale explication aussi de son soutien à la République, c'est que la Troisième République, c'est le triomphe de la franc-maçonnerie, hein, voilà, et Sébastien Faure est un franc-maçon notoire, et donc c'est pour cette raison-là qu'il aurait aussi eu cette tendresse, hein, pour la défense de la République, voilà. Et donc, en tout cas, on trouve encore, hein, en 1909, tout un tas d'anarchistes, mais pas que des anarchistes, qui gardent un mauvais souvenir de l'affaire Dreyfus, voilà. Disons que en 1901, un an ou deux après l'affaire Dreyfus, il y a véritablement un désenchantement très très fort, et que Sébastien Faure a été un peu le bouc émissaire de ce désenchantement.
D'accord. Et du coup, pour une dernière question sur cette période, puis après on va passer à la période glorieuse du syndicalisme révolutionnaire, 1901 à 1909, ou 1908, c'est la question du contexte. Alors évidemment, probablement que le syndicalisme a quand même été favorisé... Enfin, le tournant syndicaliste a quand même été favorisé par la deuxième industrialisation en France, ce qui fait que peut-être que certains historiens ont pu dire que la Commune de Paris, c'était la dernière des révolutions d'artisans, et que du coup, et que le passage au syndicalisme révolutionnaire lui marquait un tournant un passage du capitalisme, d'un capitalisme encore en grande partie à, ou enfin disons avec une présence des artisans qui était quand même relativement forte, à un triomphe de l'industrie dans le capitalisme français, ce qui fait que du coup peut-être que l'artisanat a perdu un peu de son importance, même si je pense que c'est plus compliqué que ça, puisque effectivement tu le montres dans ton ouvrage, il y a quand même encore beaucoup de métiers global assez artisanaux qui sont encore assez forts, le livre etc. Et bon, du coup, j'aurais voulu, pour pas rentrer évidemment l'attitude, la vision des anarchistes de l'industrie qui était globalement quand même plutôt une adhésion au développement des forces productives, etc., etc. Bon, on va pas rentrer dans ce débat. Simplement, c'est aussi la période et puis on parlera ensuite des femmes, puisque t'en parles bien, tu consacres un chapitre dans ton livre. Simplement, est-ce qu'il y a eu des réactions dans le mouvement anarchiste vis-à-vis de ce qui va quand même être le moteur probablement de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de la colonisation, quoi. Est-ce qu'il y a eu des réactions, des réflexions dans le mouvement anarchiste vis-à-vis de la colonisation, même si tu n'es pas spécialiste de cette question, tout simplement quelques éléments.
Par rapport à la colonisation, le mouvement anarchiste était opposé, par principe. Et puis à partir des années 1900, surtout parce que le colonialisme était fauteur de guerre. Hein, il faut distinguer deux choses. Pour un certain nombre de militants ouvriers de l'époque qui voyagent peu et qui sortent peu de la ville ou de la région où ils sont, les colonies, c'est quelque chose d'assez lointain. C'est des expéditions militaires et ça donne surtout lieu à une dénonciation littéraire, entre guillemets, c'est-à-dire on va se servir de ce qu'on lit dans la presse, des exactions coloniales, de ce qu'on peut en savoir, pour dénoncer l'État capitaliste, la rapacité capitaliste, la barbarie de l'armée française. Et donc, par exemple, l'expédition en Chine en 1900, c'est quelque chose qui revient de temps en temps dans les écrits, où on montre à quel point, c'est le banditisme légal, voilà, on s'en resservira à l'époque de l'affaire Bonneau d'ailleurs, on dira voilà ce que c'est le banditisme légal, voilà pourquoi on remet des médailles à des généraux, c'est pour les massacres, les exactions commises dans les colonies. Donc globalement, les anarchistes étaient totalement opposés au colonialisme, mais ils y sont encore plus opposés, disons, je vais dire de façon plus directe, à partir des années 1900, parce que donc le colonialisme est fauteur de guerre. Le contrôle du Maroc, notamment, la question du contrôle du Maroc, durant toutes les années 1900-1910, c'est un des rouages essentiels de l'engrenage qui va mener à la Première Guerre mondiale. Et ça, les gens le savent. Hein. Il y a une importante controverse, par exemple, entre Jaurès et Gustave Hervé en 1907, autour de la question du Maroc, autour de la question de la guerre et de l'attitude du mouvement socialiste à avoir par rapport à la guerre. Et le Maroc revient sans cesse. Hein. À ce moment-là, l'extrême gauche française, le mouvement révolutionnaire, soutient fortement les tribus arabes révoltées qui s'efforcent de résister à la pénétration française. Hein. On dénonce le sultan marocain comme étant un jouet, une marionnette des Français, et on soutient les tribus arabes rebelles. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'on sent il y a véritablement cette menace d'engrenage guerrier qui risque de faire basculer tout le continent européen dans la guerre à partir de là. Donc c'est plus seulement une question lointaine qu'on va dénoncer comme une horreur, mais une horreur lointaine. Ça devient une horreur qui se rapproche de plus en plus. Voilà.
D'accord. Et donc du coup, on en arrive du coup aux années 1901-1909, dont tu traites assez rapidement dans le livre en parlant de 1906, de 1908, etc., etc. Donc du coup, comment est-ce que tu résumerais ces années cruciales qui vont de 1901 à 1909, qui voient à la fois l'apogée du mouvement révolutionnaire et son reflux progressif?
Alors, les années 1901-1909, c'est vraiment effectivement c'est la période héroïque de la CGT. La CGT est fondée en 1895, mais quand elle est fondée, c'est un peu un non-événement. Voilà, personne ne le remarque, en fait. Pour la presse bourgeoise, et même d'ailleurs, dans une certaine mesure, de façon générale, hein, la fondation de la CGT apparaît comme une péripétie dans les querelles entre socialistes, parce que la CGT est fondée par les militants ouvriers, grève généraliste. Hein, la CGT est fondée sur le grève généralisme. Et donc, la fondation de la CGT est vue comme une petite victoire, enfin une grosse victoire même, sur les marxistes, hein, sur les guédistes. Voilà. Mais pas plus que ça, à ce moment-là. Et puis, il faut bien dire ce qui est, effectivement, pendant 6 ans à peu près, jusqu'en 1901, la CGT va végéter. Elle va végéter, elle va pas avoir une activité très importante. Elle va être dominée par les réformistes, qui ne la font pas vivre beaucoup. Parce que les réformistes, ils sont avant tout leur principale préoccupation est d'ordre corporatif. Hein. Donc, par exemple, les réformistes, les fédérations réformistes, c'est le livre, c'est les cheminots, hein, et les employés, et c'est eux qui tiennent la CGT pendant les premières années. Et puis, vous avez un basculement. À partir de 1900-1901, vous avez un énorme débat qui déchire la CGT, qui à l'époque est squelettique. Hein. Enfin, squelettique, elle a 100 000 adhérents à tout casser. Donc elle est squelettique à sa mesure, à la mesure d'une confédération syndicale. Eh bien, il y a un énorme débat qui la traverse, pour ou contre le millerandisme. Alors, c'est quoi le millerandisme ? Ça, c'est un débat complètement oublié dans l'histoire du mouvement ouvrier, mais c'est vraiment un débat fondamental. Millerand, c'est un ancien socialiste qui est devenu ministre du Travail dans le gouvernement Waldeck-Rousseau, c'est-à-dire le gouvernement des Dreyfusards qui ont gagné. Quoi, voilà. Après la victoire des Dreyfusards, ils accèdent au gouvernement, puis ils vont plus le lâcher jusqu'en 1914. Et donc, vous avez le gouvernement Waldeck-Rousseau, celui qui fait la fameuse loi 1901 sur les associations, par exemple.
Et puis aussi, il me semble, la loi de 1884 sur le
ça
droit.
C'est quand Waldeck-Rousseau était ministre du Travail, voilà. En 1884, mais Waldeck-Rousseau avait une approche, disons, voilà, de dirigeant qui était attentif au dialogue social.
Voilà,
pour le dire avec les mots d'aujourd'hui. Pour le dire avec les mots d'aujourd'hui, il était attentif à ce qu'il y ait un bon dialogue social qui se tienne. Et il a pratiqué systématiquement la politique de la main tendue en direction des syndicats. Et il l'a fait avec son ministre du Travail, Alexandre Millerand, qui était un ancien socialiste, ancien mentor de Jaurès. Et ils ont tordu la main à la CGT en 1900-1901. Il y a eu un énorme débat dans la CGT pour savoir s'il fallait saisir cette main tendue. Les réformistes étaient tout prêts à le faire, alors que les réformistes prétendaient partisans de l'indépendance du syndicalisme, mais ce qui les intéressait avant tout, c'était la paix sociale. Et les réformistes étaient tout à fait prêts à aller faire antichambre dans les ministères et être dans une politique de collaboration avec le gouvernement. Face à eux se sont dressés des révolutionnaires, notamment Victor Griffel, Émile Pouget. Ce sont des gens de cette trempe qui ont mené le combat contre la politique paix sociale et la politique de gouvernement, de collaboration avec le gouvernement. Et donc la politique anti-millerandiste. Eh bien, au cours de l'année 1900, ce sont ces gens-là qui vont emporter le morceau. Ils vont avoir la majorité dans la CGT, c'est eux, du coup, qui vont accéder au bureau confédéral. Voilà, en mars 1901, Victor Griffel est élu secrétaire de la CGT, Émile Pouget, secrétaire adjoint. 1902, au congrès suivant, au congrès confédéral suivant, on franchit de nouveau une étape importante, parce que vous avez à ce moment-là deux organisations syndicales importantes qui ont des révolutionnaires à leur tête, d'une part la CGT, avec Griffel et Pouget, et d'autre part la Fédération des Bourses du Travail, avec Fernand Yvetot, qui était le bras droit de Pelloutier. Eh bien, on peut dire qu'à ce moment-là, un obstacle important est tombé entre ces deux organisations syndicales, et donc elles vont décider de leur unification au congrès de Montpellier en 1902. Et c'est de ce congrès de Montpellier de 1902 qu'on date souvent la véritable naissance de la CGT. La CGT naît véritablement avec sa forme toujours actuelle d'ailleurs, en 1902 au congrès de Montpellier. Une forme à la fois, on a tendance à dire, à la fois verticale, c'est-à-dire les fédérations professionnelles, et puis la forme horizontale, qui est donc celle de l'organisation par localité dans les bourses du travail. Et c'est cette double forme, cette double organisation qui structure encore aujourd'hui la CGT plus de 100 ans plus tard. Et là, ça va être vraiment le début de vraiment le début d'une montée importante de la CGT, avec de plus en plus d'actions directes. Il y a la campagne contre les bureaux de placement en 1903, qui est une campagne importante que mène la CGT, avec pas mal d'actions directes, qui se traduit par pas mal en fait de verres cassés et de vitrines descendues dans les bureaux de placement, qui étaient des sortes de boîtes d'intérim de l'époque, pour leur interdiction, et de façon à ce que les bourses du travail les supplantent réellement. En 1904, vous avez le Congrès confédéral qui décide qu'on a 2 ans devant nous pour organiser une grève générale pour gagner la journée de 8 heures, voire plus, voire un mouvement révolutionnaire. Et le bureau confédéral se retrouve avec sur les bras de devoir monter une campagne pour la grève générale, pour les 8 heures, et qui sera donc la fameuse grève générale du 1er mai 1906. Et ça, c'est une période extrêmement importante, les années 1905-1906, c'est une période de montée en puissance de la CGT, où la bourgeoisie prend peur, où les syndicats se multiplient comme des champignons, et où je pense que toute une génération ouvrière militante a été marquée véritablement par cette période-là, de 1905-1906. Mon livre s'appelle « Trop jeune pour mourir », parce que les militants anarchistes qui ont fondé la première organisation anarchiste en 1910, globalement, je pense que ce sont des militants de la génération 1906. C'est-à-dire des gens qui avaient peut-être 16 ans, 18 ans en 1906, et qui ont vécu cette période d'effervescence extrêmement enthousiasmante, galvanisante, où on pouvait se dire que peut-être, oui, on le touche du doigt. On touche du doigt la possibilité de faire la révolution. Oui, c'est possible, on peut y arriver, la classe ouvrière est en train de rejoindre la CGT en masse. Donc c'est vraiment un moment extrêmement important pour la CGT. Bon, la grève générale du 1er mai 1906 ne sera pas ce qui était espéré, mais c'est néanmoins la première fois qu'une organisation, et en l'occurrence c'est la CGT, parvient à mettre en action des centaines de milliers de personnes. C'est considérable. Et plus jamais elle ne sera regardée de la même façon. Cette période de montée en puissance de la CGT, c'est aussi une montée en puissance politique, en fait. Parce que la CGT, parce qu'elle est dirigée par des révolutionnaires, ne se contente pas effectivement de faire du syndicalisme corporatif. Elle fait également de l'action politique. Et par exemple, en 1901, vous avez un important débat qui se déroule, une controverse publique qui oppose Jean Jaurès à Émile Pouget. Sur la question de la grève générale, c'est un des derniers grands débats qui marque l'histoire de cette idée autour de la grève générale. Jaurès étant contre la grève générale, pas parce qu'il est contre par principe, mais parce qu'il considère que c'est impossible, que c'est un enfantillage, etc., que c'est une rêverie. Et Émile Pouget défendant la grève générale comme étant l'arme suprême du prolétariat. Il y a une controverse qui dure plusieurs mois entre la Voix du Peuple, donc l'organe officiel de la CGT, et puis le journal dans lequel Jaurès écrit, je sais plus son titre, c'est peut-être La Petite République à ce moment-là, et donc Pouget soutient cette controverse avec l'ensemble des militants syndicaux qui suivent ça de très près. Et donc nous avons à ce moment-là une organisation qui se pose comme étant la voix et la représentante de la classe ouvrière. Quand le Parti Socialiste verra le jour en 1905, il y aura clairement 2 organisations concurrentes en France. Le PS, qui prône le changement de changer la société par la voie parlementaire, et la CGT, qui prône le changement de société par la grève générale et donc par l'action directe des travailleurs. Donc la CGT monte vraiment en puissance dans toute cette période-là, et vous avez, alors, bon, je peux pas vous raconter toutes les grèves, etc., qu'il y a eu à l'époque, mais dans ses mémoires, un des militants qui a vécu cette époque-là disait que, par ailleurs, il y avait véritablement une fièvre militante, générationnelle. Il disait, dans chaque grève qui éclatait, on voyait le prémisse de la grève générale. Donc il y avait également un enthousiasme débordant pour cette puissance, cette force que l'on sentait monter, en fait, la naissance d'une force que l'on sentait palpable à ce moment-là. Et puis en fait, on va atteindre un palier, on va dire, en 1908 environ, parce qu'en 1908, on est avec un gouvernement d'anciens Dreyfusards, toujours, mais qui lui n'est plus dans le dialogue social, qui décide d'employer la force et qui décide de briser les reins de la CGT. Alors, en l'occurrence, c'est Clémenceau, hein, qui, à ce moment-là, est ministre de l'Intérieur, premier flic de France. Et Clémenceau, c'est une histoire qui est assez connue. Hein, Jacques Julliard a écrit un excellent livre que je recommande à tout le monde là-dessus, qui s'appelle Clémenceau, briseur de grève, autour de l'affaire de la grève des carriers de Draveil-Vigneux. Et voilà, il y a les gendarmes tirent sur les ouvriers, il y a des morts, la CGT manifeste, il y a des barricades à Villeneuve-Saint-Georges, une tentative de grève générale, l'organisation confédérale est décapitée, de Pouget, Griffuels, Yvetot se retrouvent en prison, et grosso modo, on va considérer que ça marque un tournant un peu pour la CGT, parce que la théorie syndicaliste révolutionnaire semble avoir été quelque peu battue en brèche. La CGT n'a pas réussi à échouer dans son bras de fer avec l'État, alors que les conditions de mener ce bras de fer semblaient réunies. La CGT a échoué, elle a perdu. Et donc, à partir de là, on rentre dans une période qui est beaucoup plus dure, qui commence par une crise de direction, hein, à la tête de la CGT en février 1909, quand Victor Griffuels est contraint de quitter il démissionne tout simplement de la direction de la CGT. Pouget s'en va, il considère qu'il a fait son temps, et on rentre dans une période qui est celle autour de laquelle j'ai écrit mon livre. Voilà, période très méconnue jusque-là, parce que période ingrate parce que coincée entre justement deux époques qui ont passionné les historiens. D'une part, la période héroïque de la CGT, 1901-1908, et puis d'autre part, la Grande Guerre, 1914-1918. Et entre les deux, 1909-1914, une période assez nébuleuse, dans laquelle on voyait pas grand-chose, on distinguait, on supposait que peut-être une stagnation, un déclin, la CGT qui devenait réformiste. En fait, pas du tout. Il y avait des tas de choses à raconter sur cette période. La CGT n'est pas devenue réformiste, il n'y a pas eu non plus un déclin des luttes, même si on est dans une période où on a atteint effectivement un palier et où on se pose beaucoup de questions. C'est plutôt une période de doute, et du coup, c'est une période, je pense, qui nous parle beaucoup et qui doit parler à beaucoup de syndicalistes, enfin en tout cas des camarades qui ont lu le bouquin m'en ont fait part, mais que la période dans laquelle on est depuis longtemps, hein, depuis 20 ans peut-être, 20 ans, 30 ans, c'est une période un peu de doute, c'est pareil, on cherche la mèche en permanence, comment rebondir, comment relancer les luttes, comment retrouver les voies de la remobilisation. On tente des choses, mais personne n'a de certitude sur la question. Eh bien, la période 1909-1914, elle ressemble sur certains points à ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec d'ailleurs aussi ces moments, ces flambées d'espoir, hein, autour de moments importants, de grandes luttes importantes, la grève des cheminots de 1910, par exemple. Et puis aussi avec ces à côté pénibles, parce que quand on est dans une période de marasme, souvent c'est la porte ouverte aux guerres internes, à la zizanie, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas, comment ça se fait qu'on pédale dans la semoule, on commence à s'accuser les uns les autres de pas avoir fait tout son devoir, de pas avoir fait ce qu'il fallait, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Voilà, les débats stratégiques prennent des proportions parfois violentes, cruelles. Donc voilà, c'est une période, en tout cas c'est une période passionnante, et ça m'a passionné de découvrir, hein, de défricher et de raconter.
Et donc bah justement, on consacrera du coup la deuxième partie de cette émission à cette période dont tu parles assez largement dans le livre. J'aurais voulu te poser deux questions sur cette période 1901-1909. Tout d'abord, en fait, plutôt à un niveau plus théorique, en termes ou idéologiques, disons, la CGT révolutionnaire, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, la charte d'Amiens proclame que voilà, c'est l'auto-émancipation des travailleurs avec comme objectif l'abolition du salariat. Mais derrière, du coup, parce qu'on a parlé tout à l'heure du débat entre collectivistes et communistes, on pourrait parler aussi du débat est-ce que le syndicat, est-ce que derrière, est-ce que c'est une société étatiste ou libertaire, et le syndicat dans tout ça, est-ce que c'est un moyen d'arriver à une société libertaire, ou est-ce que c'est le contenu même de la société libertaire, des débats qui vont ressurgir après dans le communisme libertaire espagnol, disons. Est-ce que tu pourrais donner une idée un petit peu de ces débats théoriques sur parce qu'on a bien compris que du coup la méthode c'est la grève générale, mais du coup la grève générale, pourquoi j'imagine tout le monde ne met pas le même contenu d'une société post-capitaliste, parce qu'on est dans une émission qui s'appelle Sortir du capitalisme, disons, évidemment c'est une question qui nous intéresse. Vas-y.
En fait, le débat sur le projet de société au sein de la CGT, hein, il a avorté assez rapidement. Il a avorté aux alentours de 1902, je dirais, où il y a eu une tentative au congrès de Montpellier de 1902 d'avoir un débat sur le futur, sur ce qu'on souhaitait, et donc une tentative par un délégué, dont j'ai oublié le nom, d'amener le débat sur ce terrain-là, quoi, le communisme ou pas, voilà, qu'est-ce qu'on faisait. Bon. Mais là, clairement, il y a eu un choix d'un certain nombre de militants syndicalistes libertaires de ne pas trop avoir ce débat par souci de préserver l'unité ouvrière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Je fais dans le livre une distinction entre deux types de militants anarchistes dans la CGT. Il y a deux types. Alors bon, attention, il faut se garder de faire des séparations étanches, hein, parce qu'il s'agit là de tendances. Mais grosso modo, vous pouvez distinguer deux types. Il y a d'une part ceux que je qualifie de syndicalistes libertaires, et d'autre part ceux que je qualifie d'anarchistes syndicalistes, pour dénomination parfaitement arbitraire, évidemment à l'époque ils ne se sont jamais appelés comme ça. Mais disons que, voilà, la différence c'est quoi? Les syndicalistes libertaires, ce sont des gens qui vont avoir tendance à faire prévaloir l'unité ouvrière sur leurs préférences idéologiques et partisanes. Voilà. Souvent, on les rencontre dans les à la direction de la CGT, alors typiquement Pouget, Yvetot, non pas Yvetot, justement, Pouget, pardon, Jouot, Monat, qui d'autre encore, par exemple, bon, des gens qui sont moins connus, quoi, Pierre Dumas, bon voilà. Un certain nombre de militants anarchistes comme ça qui sont à des haut placés dans la CGT, ou parfois aussi des militants locaux, hein, par exemple Victor Pengam à Brest, il peut tout à fait être classé dans cette catégorie-là. C'est des gens qui font prévaloir l'unité ouvrière sur leurs préférences partisanes. Ils veulent
du
pas.
Du coup, ils parlent pas tellement de projets de société.
Ils vont avoir tendance à éviter les débats qui fâchent avec les socialistes, et les débats dont ils pensent que ça sert à rien à part semer la zizanie au sein de la CGT et où ça risquerait d'entraîner des scissions.
Donc c'est dans
les syndicats.
Des mots d'ordre consensuels du genre abolition du salariat, quoi.
Je vais y venir après. Et l'autre tendance, c'est, enfin, l'autre type de militants anarchistes, ce sont ceux que j'appelle les anarchistes syndicalistes. Là, par exemple, c'est des gens comme Yvetot, pour le coup. Yvetot, Jean Vion, Jules Roulier, Brouchou, des gens comme ça. Ça, c'est davantage des gens qui vont avoir tendance, encore une fois, ce n'est qu'une tendance, à faire prévaloir leur préférence idéologique sur l'unité ouvrière. Eux, ils ne gardent pas leur drapeau noir dans leur poche. Ils n'hésitent pas à dire, à mettre des coups de canif au Parti Socialiste. Ils n'hésitent pas à porter des débats qui fâchent, parfois même de façon un peu volontariste et un peu gratuite, hein, on va dire. Et quitte à prendre le risque, parfois, de provoquer des scissions dans le mouvement syndical. Hein, ce qui est arrivé, par exemple, dans le Finistère. Et typiquement, dans le Finistère, vous avez ces deux figures-là. Victor Pengam, qui est plutôt pour maintenir l'unité de la CGT. Et puis Jules Roulier, le secrétaire de l'union locale de Brest, qui lui va volontiers faire dans la surenchère pour marquer les camps et pour bien montrer que la CGT, les révolutionnaires, elle n'est que ça et il n'y a pas de réforme. Enfin, et les réformistes n'y ont pas trop leur place, hein, pour aller vite. L'autre tendance, ils vont avoir tendance à dire que bon, bah, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde, y compris pour les réformistes. Alors, ça les empêche pas de mener d'ailleurs, sur certains points, des combats sévères, hein, contre les réformistes, parce qu'ils veulent quand même marquer des points, et voilà. Mais, il y a vraiment cette différence-là, qu'il y en a qui, veulent pas systématiquement créer des clivages, et d'autres qui vont plus facilement le faire. Voilà. Faut pas s'imaginer du tout que les premiers, donc les syndicats libertaires, partisans de l'unité ouvrière, ce sont des grands organisateurs qui organisent les grèves de façon méthodique, qui sont, alors que les autres seraient des braillards, voilà, qui passeraient leur temps à monter sur un tonneau. Bon, c'est pas du tout ça, hein. Il y a de parfaits organisateurs du mouvement syndical dans les deux camps. On rencontre des compétences égales dans les deux camps. Il y a pas de souci là-dessus. Mais il faut bien comprendre cette différence-là. Et donc, du coup, effectivement, dès 1902, eh bien, des militants autour de Paul Delsalle, Émile Pouget, on sent qu'ils cessent de porter, alors qu'il y a eu quelques velléités de le faire dans les congrès précédents, mais à partir de 1902, ils cessent vraiment de porter la question du projet de société, et donc on s'en tient à des généralités. Qui sont des généralités, pas tant que ça, hein, parce que comment dire, c'est pas tant des généralités que ça. Dire qu'on est pour l'abolition du salariat et qu'on est pour que les syndicats, pour dire que les syndicats sont l'embryon de la société future, parce qu'en gros ils organisent le pouvoir des travailleurs, en gros c'est ça, hein, les syndicats vont permettre d'organiser réellement le pouvoir des travailleurs sur la production. C'est déjà quand même relativement clair comme projet de société, quoi. Par contre, effectivement, il y a un débat qui n'est pas mené, par refus de le mener, c'est la question du parlementarisme. Et ça, clairement, hein, la charte d'Amiens n'en parle pas. Et dans les années qui suivent la charte d'Amiens, il y a une certaine remise en cause de la charte d'Amiens par des anarchistes, comme Émile Janvion, par exemple, ou par Benoît Broutchou, qui disent que la charte d'Amiens, en fait, elle pose quand même un gros problème. C'est vraiment la charte du neutralisme syndical, parce qu'elle refuse de poser les questions importantes, dont la question du parlementarisme. Et vous avez ainsi, en 1907, un débat en première page du plus grand quotidien de l'époque. Alors, c'est pour dire quand même l'importance de cette chose-là, qui s'appelle le quotidien Le Matin. En première page, vous avez un débat opposant deux porte-parole, en quelque sorte, de deux visions de la CGT. D'une part, Émile Pouget. Faut-il que le... Et puis, d'autre part, Émile Janvion. Et la question, c'est le syndicalisme doit-il être anti-parlementaire ou doit-il être aparlementaire? Et bien ça, ça fait partie des questions importantes qui ne sont pas résolues au sein de la CGT jusqu'en 1914. Et en 1907, ça fait quand même la une d'un très grand quotidien, enfin d'un des premiers quotidiens en France. Je ne sais pas si vous imaginez, à une heure de grande écoute sur TF1, un débat comme ça qui opposerait, par exemple, Philippe Martinez de la CGT à un dirigeant quelconque de la CGT qui serait anarchiste, et où la question serait la CGT doit-elle faire la guerre à l'État ou pas? Bon, je pense qu'on serait tous devant notre poste en train de regarder ce qui se passe, quoi. Ça nous intéresserait au plus haut point, et on compterait les points, quoi. Bon, donc mais à l'époque il y avait ça, il y avait ce genre de débat. Il sera pas résolu jusqu'en 1914. Et donc l'équivoque va demeurer. Et l'équivoque va demeurer en fait jusqu'en 1922. Et en 1922, lorsque sera fondée la CGTU, en fait, eh bien, les anarchistes qui vont dominer la commission administrative provisoire de la CGTU pendant 6 mois seulement, hein, enfin, pendant 6 mois, ils vont élaborer des nouveaux statuts et une nouvelle orientation, en fait, pour la CGTU, et ils vont s'inspirer, ils vont beaucoup reprendre les débats d'avant 14, et notamment, ils vont proposer une charte à la CGTU, enfin le préambule de sa constitution, ce que vous voulez, dans lequel il est indiqué que la CGTU combat le capitalisme et l'État. Mmh. Voilà. Bon, ça va être repoussé puisqu'ils vont être minoritaires au Congrès, ils vont être battus par les pro-Moscou. Mais il y a eu cette tentative là, et ensuite on la retrouvera en 1926 quand il y aura la fondation de la CGTSR. Il y aura la charte de Lyon rédigée par Pierre Bénard, dans laquelle sera inscrite le combat contre l'État étant indissociable du capitalisme. Voilà. C'est ce qui continue à fonder l'anarcho-syndicalisme français jusqu'à nos jours.
D'accord. Et du coup, sur le débat entre collectivistes et communistes libertaires, c'est des débats qui ont perdu de leur acuité, du coup, pendant ces années-là.
En France, honnêtement, tous les anarchistes sont communistes, sauf les individualistes, hein, bien sûr. Les individualistes, eux, sont anticommunistes et anti-révolutionnaires, hein, même. Mais sinon, en France, non, il n'y a plus de collectivistes. Hein. Vraiment, le collectivisme, c'est quelque chose qui reste ancré dans le mouvement anarchiste espagnol, mais qui, après, passe de mode après 1919, quoi.
D'accord. Et ben, du coup, on va faire, après cette grande frise chronologique jusqu'à 1909, donc au début du livre, on va faire une pause musicale avant le gros morceau, même si c'est déjà un bon gros morceau là, le gros morceau, ce qui est abordé dans ce volumineux livre de 500 pages. Voilà.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces.
Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui gourba nos pères,
car nous voulons nous affranchir de ce qui cause nos misères.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressons et notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine.
D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance.
C'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressons et notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'afflicaillent. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille.
Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la politique.
Quels que soient ceux qui font les lois, c'est bien toujours la même clique.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressons et notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie.
Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre.
voleurs, défendez votre bien. Ce n'est pas à nous de le faire.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. État, cœur fraternel, nous réaliserons l'idéalisme.